Donc, nous sommes le 3 mars. Je le dis pour l'enregistreur parce que ça va sur le site. Donc, les réflexions pratiques que j'aurais à donner aujourd'hui, après, j'irai dans les textes bibliques, évidemment. Je n'aime pas de faire du baratin et puis de mettre la parole de Dieu de côté. C'est une grave méprise et en même temps, c'est une offense à Dieu. Et c'est induire les personnes dans l'idée qu'un homme a toutes les pensées de Dieu comme ça sans aller dans la Bible. C'est faux. Un homme qui n'est pas abreuvé de la parole de Dieu et qui ne fait pas référence, pour moi, il est insensé. Aux yeux de Dieu. Donc le premier point, c'est être assuré de l'avenir. Aujourd'hui, dans la situation d'aujourd'hui, beaucoup de personnes, de jeunes, ne veulent plus faire d'enfants, avoir d'enfants, ou ils sont très perplexes, très inquiets quand ils ont des enfants. Et être assuré de l'avenir est quelque chose de très important. Où est notre avenir? Où est-il, chers amis? Nous y reviendrons après. N'oubliez pas que la parole de Dieu dit, dans Romains chapitre 1, versets 15 et 16, que l'évangile, je n'ai point honte de l'évangile car il y a une puissance de Dieu et l'évangile dit que le juste vivra par la foi. Vous avez déjà un embryon de réponse, on va voir après. Le deuxième point, c'est d'être en présence de Dieu. C'est pas le tout d'avoir confessé Jésus, de croire en lui, d'être baptisé et puis tout compte fait, on vit et il n'y a pas profondément quelque chose de profondément de changé. On est toujours le même individu qui, avec ses réactions, sa façon de se comporter, avec ses racines culturelles, ses racines familiales ou professionnelles. Le deuxième point est d'être en présence de Christ. En présence de Christ, ça change tout. Et la primauté, le point de référence, ce n'est plus la culture, ce n'est pas la profession, le milieu, ce n'est pas soi-même, c'est Christ. Et je m'appuie sur un verset, « Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Matthieu, chapitre 28, verset 20. « Et j'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. » Être en présence de Christ ressuscité, tout-puissant. C'est une évidence, ce que je dis, mais quand je rencontre beaucoup de personnes, même qui se disent croyantes, ce n'est pas aussi évident que ça. Alors, le troisième point, c'est être à l'écoute. À l'écoute de quoi? De la radio? De la peur? De la télévision? Des modes? Des beaux prédicateurs en tout genre? Peut-être moi aussi, d'ailleurs. C'est être à l'écoute de Christ. Dans Matthieu 17, lors de la transfiguration sur le mont Hermon, transfiguration de Jésus, en présence d'Élie et de Moïse, de Pierre, Jacques et Jean, Jésus reçoit sur lui une parole, c'est Dieu le Père qui dit cette parole, dans la nuit, c'est-à-dire dans l'esprit, il dit, celui-ci mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc être à l'écoute. Écouter Jésus, c'est lire régulièrement et prier et chercher ce que Jésus m'enseigne à moi dans toutes mes situations. C'est livrer mon cœur pour pouvoir l'écouter beaucoup mieux. Il faut aller au-delà des vérités installées dans notre cœur. Il faut passer ce cap de tout ce qu'on a mijoté dans nous-mêmes depuis des années et qu'on a imaginé. Il faut se mettre à l'écoute le plus simplement possible, humblement possible. Quand on est, donc, je vous ai dit être assuré de l'avenir. Vous avez déjà des embryons de réponse. Être en présence de Christ. Matthieu 28, verset 20. Chapitre 28, verset 20. Deuxièmement, être à l'écoute. Matthieu chapitre 17, verset 1 à 9. C'est la transfiguration. Celui-ci, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Quatrième point, c'est être obéissant. Dans la première épître de Pierre, clairement, Pierre dit qu'il a Jésus est venu afin que les nations, les païens et les juifs soient obéissants à Dieu. De quelle manière? Ah, de quelle manière? Obéissant à des principes, à des règles? Non. Quand on prend la première épître de Timothée, on voit que la loi est réservée aux parricides, aux fratricides, aux ravisseurs, etc., aux pécheurs, mais que l'enfant de Dieu a une autre loi, la loi de l'Esprit Saint dans notre cœur. Et donc, allons plus loin. L'obéissance est quelque chose qu'on n'aime pas. C'est dans notre culture. Puisqu'on a acquis des libertés depuis 1945, avec un standing de vie qui s'est amélioré, puisqu'on a été à l'école, puisqu'on a eu la sécurité sociale, puisqu'on a eu la retraite, on a eu un petit peu toutes sortes de choses, on a des sécurités. Pourquoi j'obéirais? Quand on est dans la sécurité, qu'on a peur de quelqu'un, on obéit. Et on pourrait dire, mais oui, c'est bon dans le temps, on obéissait à Dieu, mais plus maintenant. On croit en Dieu, c'est différent. Non. Il est clair que nous devons obéir à Dieu, c'est le principe de l'Écriture, l'obéissance à Dieu. Pour cela, il faut être humble. Il ne faut pas se reposer sur les avantages sociaux, le standing, l'argent, la belle cuisine équipée, les belles vacances, l'humilité. C'est de considérer que tout cela est provisoire, qu'on peut tout perdre, y compris la santé, et qu'il peut arriver des épreuves où on perd de tout. Mais, même si on ne perd pas tout, l'humilité est le bon chemin. Vous vous rappelez ce que Dieu a dit par Michée 6:8, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, c'est que tu aimes la miséricorde, que tu pratiques la justice et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et Paul dit dans 2 Corinthiens que Jésus nous enrichit de sa pauvreté, c'est de son humilité, sa réelle humilité, qui n'était pas feinte, qui n'était pas surfaite, qui était réellement son attitude profonde. Donc l'attitude profonde d'un croyant, plus il avance dans la foi, dans la relation avec Dieu, c'est l'humilité. Ce qui n'est pas un désastre, ce qui n'est pas un déshonneur, c'est une source infinie de richesse, parce qu'il n'y a plus aucun orgueil qui puisse dévier les pensées de celui qui est humble. J'ai choisi encore de vous dire, dans les réflexions pratiques, il faut choisir ses relations. Dans l'Épître aux Corinthiens, attention, attention, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Choisir ses relations, c'est extrêmement important. Il faut du temps pour trouver les vrais amis. Il faut du temps pour trouver les vrais chrétiens. Il faut du temps pour les garder. Il faut consacrer du temps à prier pour eux. Il faut du temps pour demander à Dieu d'avoir de vrais amis et de vraies relations. Parfois, nous voulons fabriquer l'amitié par toutes sortes de complaisances, de facilités, mais la démagogie n'existe pas dans le domaine chrétien. La démagogie ne peut pas créer les vraies relations profondes. Savez-vous comment on trouve ces vraies relations? Auprès de ceux qui font la volonté de Dieu. Jésus l'a dit, qui sont mes frères et mes sœurs, mon père, ma mère, ceux qui font la volonté de mon père. Il ne témoigne donc que ces relations chéries, précieuses, se trouvent auprès de ceux qui font la volonté du Père. Donc, vos relations sont basées sur la consécration des personnes que vous entourez. Et s'il n'y en a pas qui sont consacrées, que c'est une foi surfaite, superficielle, ou tout simplement on parle de Dieu, mais on ne lui obéit pas, on ne s'y consacre pas, il est très dangereux d'avoir des relations profondes. Il faut être très prudent. Un autre point, c'est d'aimer les frères. Aimer les frères, c'est très important d'avoir quelques amis chrétiens et de pouvoir se réunir et de prier ensemble et de pouvoir lire la Bible ensemble. Mais attention, aucun de nous ne peut prier une demi-heure et que les autres n'aient que quelques mots à dire. Aucun de nous ne peut parler une heure et les autres ont à peine une minute. Car en sociologie, il est dit que l'élément le plus volubile est celui qui tend à s'imposer. C'est, même si c'est inconscient, celui qui est plus volubile tend à prendre un pouvoir. Donc, je voudrais vous dire que aimer les frères, c'est savoir se taire aussi. C'est savoir écouter. Afin de ne pas avoir un pouvoir charnel sur les autres. Et si des personnes dans un groupe chrétien cherchent à avoir un pouvoir charnel sur les autres, il faut évidemment réagir, mettre en garde cette personne et lui dire que le Seigneur ne faisait pas comme ça. S'il ne veut pas entendre, bien il faut prendre la distance. Dans l'amour pour les frères, lorsqu'on se rencontre, lorsqu'on est autour de la parole de Dieu, ou même quand on est à une autre occasion, on se rencontre à une autre occasion et qu'on est quelque temps ensemble, il faut apprendre à se considérer mutuellement comme des personnes sous le sang de Christ, sauvées par l'amour de Christ. Pas simplement des bons copains, ne pas banaliser la relation, la rente purement humaine, sympathique, comme si c'était des joueurs de football qui se rencontrent, ou des gens qui vont à la pêche ensemble et qui font un club de pêche, qui font une petite fête pour fêter la bonne récolte de l'année, ou la bonne chasse dans la forêt. Se considérer, c'est se considérer comme frère en Christ. Se considérer, c'est se prêter attention et surtout apprécier l'œuvre de Christ chez les uns, chez les autres. Et surtout, prier pour que l'œuvre de Christ croisse chez les frères et les sœurs. Car le bonheur d'un vrai frère, d'une vraie sœur, c'est de voir les autres grandir. Rappelez-vous la parole de Jean-Baptiste, quand il a dit « Il faut qu'il croisse et moi que je diminue ». Il s'agit de Jean-Baptiste, il parlait de Jésus, charpentier de Nazareth, humble, parmi les humbles. Il n'y a pas eu quelqu'un d'aussi humble que Jésus. Eh bien, Jean-Baptiste, qui avait quand même un certain crédit, qui avait 11 disciples, il dit à ses 11 disciples, « Suivez-le, et le voici, c'est fini pour moi. » Il faut qu'il croisse, suivez-le. C'est lui le Messie. Et donc, le dépouillement de soi, l'abnégation fait partie de la vraie relation chrétienne. Ce n'est pas simplement un principe d'égalité. Ce n'est pas un simple principe de « est-ce qu'on est bien ensemble ?» C'est le principe et la croissance entre frères et sœurs. Et pour cela, il faut toujours que ce soit interactif. Il faut que chacun puisse lire la parole de Dieu, demander tour à tour un approfondissement de tel texte. C'est pas toujours le même qui propose un chant, c'est pas toujours le même qui propose le même texte. C'est interactif. Et la réciprocité fait partie de l'amour, pas le narcissisme. Et nous ne sommes pas dans l'égalitarisme, nous sommes dans la réciprocité et l'interaction entre frères et sœurs. Un autre point qui me semble important dans les réflexions pratiques de la vie chrétienne, c'est la protection des plus faibles. C'est le partage de fardeaux de ceux qui ont des souffrances, qui font une dépression, qui ont par exemple le Covid et qui sont complètement à bout et qui ne s'en remettent pas bien. Et ces protégés plus faibles, il y a des gens plus dépressifs les uns que les autres devant la situation actuelle, même avant. Et des personnes qui collectionnent les épreuves, on dirait, alors que d'autres ont l'impression qu'ils n'ont jamais eu de grosses tuiles. Eh bien, en fait, celui qui n'a jamais eu de grosses tuiles, tout autant que celui qui en a, doivent apprendre à se faire du bien les uns les autres et offrir protection, consolation, réciproquement. À chacun de nous, il est destiné, à un moment donné, d'avoir des épreuves, parce que Dieu le permet, pour que nous nous reposions sur la grâce et plus sur nous-mêmes. Rappelez-vous Paul, qui était avec des yeux purulents, qui avait comme des formes de crise d'épilepsie, ça n'en était peut-être pas, mais en tout cas, ça semble que ce soit des attaques d'un démon. Il avait supplié Christ de le débarrasser d'un démon, d'un être malfaisant, invisible, qui le faisait souffrir et qui atteignait son corps. Et à trois reprises, il a supplié le Seigneur, mais afin qu'il ne s'enorgueillisse pas, Christ avait laissé cette épreuve pour un certain temps, comme dans Job. Et donc, Paul a souffert pendant 2-3 ans en étant à Éphèse, il ne pouvait plus circuler, au point que parfois il dictait ses épîtres et que simplement il les signait. C'est quelqu'un d'autre qui les écrivait et qui copiait ce qu'il disait. La pauvreté fait partie de la condition du chrétien. Tour à tour, nous connaissons des moments de pauvreté. Et ce n'est pas une indignité. C'est dans ce creuset que souvent on se rapproche de Christ. Et Christ a dit à Paul, « Ma grâce te suffit. » Protéger les pauvres, c'est-à-dire consentir à ce que chacun de nous soit au fond du creuset, à tour de rôle, et admettre que Christ l'aime autant que nous, et qu'il n'est pas maudit, que ce n'est pas parce qu'il a commis tel et tel péché qu'il est dans cette situation. Ce n'est pas porter un regard soupçonneux, malveillant, c'est au contraire l'aimer à travers son épreuve, prier pour lui, et prier pour qu'il découvre la grandeur de la grâce de Christ à la croix pour lui. Un autre point, c'est, et je trouve que c'est très important, en toutes circonstances, déjà avant le Covid, hein, c'est se réjouir en toutes choses. En toutes circonstances, bonnes ou mauvaises, c'est louer le Seigneur, c'est chanter le Seigneur. Il est bon d'apprendre des petits chants à chacun de nous, un tour de rôle. Quand il est tout seul dans sa chambre ou tout seul dans la douche, il peut chanter un chant chrétien, un verset biblique qu'il a appris avec les frères et sœurs. Il est bon d'avoir des chants dans notre cœur, dans notre âme. Et parfois, il faut acheter des CD ou regarder sur des programmes pour apprendre des chants dont le texte est proche de la Bible ou carrément vient de la Bible. Mais pas un chant qui est homéopathique et qui a tout dilué et qui n'apporte plus rien de biblique. Se réjouir en toutes choses, quand on ne dort pas, par exemple, on a une insomnie, on appelle ça une insomnie, mais moi je vais dire que parfois Dieu permet qu'on ne dorme pas, pour qu'on le prie, on le loue, qu'on se relève et qu'on lise la Bible, tout seul. Pendant qu'il y a le silence dans la maison. Et on peut se réjouir en toutes choses. Se relever pendant la nuit pour lire la Bible et pour prier alors qu'on ne dormait pas. Eh bien, moi j'ai fait souvent l'expérience, la force vient, le repos vient sans avoir dormi. Et on est bien plus en forme quand on a accepté d'être guidé, en toutes circonstances, se laisser guider à l'intimité avec Dieu et se réjouir de sa présence, de sa personne, de sa richesse. Se réjouir qu'on peut lui parler, se réjouir qu'on peut le lire, le trouver dans la parole et le chanter et le louer. La réjouissance fait partie de la rencontre avec Jésus, comme quand on rentre chez soi ou on est dans l'auto, dire merci à Dieu d'avoir rencontré telle ou telle personne, se réjouir et la présenter devant Dieu au pied du trône de grâce pour qu'elle soit comblée de grâce, qu'elle abonde en grâce. Il y a de nombreuses familles aujourd'hui qui sont divorcées chez les chrétiens. Il y a de nombreux enfants qui ne sont plus chrétiens ou qui ne veulent plus l'être. Ou qui basculent, qui ne savent plus quoi. Eh bien, la meilleure façon d'obtenir de bons changements, c'est de présenter en paix, dans un cœur en paix, de présenter ces personnes dans la prière et demander à Dieu de leur parler, de que la grâce de Christ abonde en eux. Et il faut persévérer parfois de nombreuses années, et puis tout d'un coup, au miracle, tel papa reparle avec ses enfants, ou tel enfant reparle avec son papa, sa maman, alors qu'avant il avait la tête de bois. Et tout d'un coup, on pourrait faire l'étonné en disant « Oh, j'y crois pas, c'est pas possible, c'est pas possible ». Il faut faire attention que l'incrédulité empêche de se réjouir et d'espérer. L'incrédulité est à la porte de notre cœur. Il faut faire attention. Donc se réjouir, c'est le signe de l'espérance en nous, vivante. Encore un autre point, c'est que il faut prier, bien sûr, vous le savez, mais qu'est-ce que ça veut dire prier? Il y a des textes, il y a des prières dans la Bible, il y a de nombreuses prières, il y a même des prières de Jésus, il y a des prières dans l'Apocalypse, il y a des prières dans les prophètes dans l'Ancien Testament. Quand on lit la Bible régulièrement, on les trouve. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les noter dans un cahier. Et quand vous avez 30, 40 prières dans la Bible percutantes, vous en avez toujours assez pour aller en relire. Et elles rentrent dans le cœur et vous apprenez à prier comme les prophètes l'ont fait, comme Marie l'a fait, comme bien d'autres l'ont fait dans la Bible, comme Jésus l'a fait. La prière s'apprend au contact de la Bible et de la prière des prophètes. Et aussi dans l'Apocalypse, des anges, des 24 vieillards, des archanges. La prière est quelque chose qui s'apprend dans le sein de Dieu. Dans le sein de Dieu, dans la communauté, avec la communauté des saints qui est autour de Dieu. Et on trouve tout cela dans la Bible. On ne peut pas apprendre à prier réellement, en profondeur et en vérité, sans sonder les Écritures. Ça va de pair. La superficialité des prières et parfois, je dirais même, une impertinence de la prière. Il y a des personnes qui lisent peu la Bible et qui prient beaucoup, en public, dans les groupes et tout ça. Il y a des prières qui sont impertinentes parce que il y a des gens intelligents. Il y a des gens intelligents, ils savent dire des choses. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut peut-être qu'un bégayeur dise 5 mots et il a mieux prié que quelqu'un qui a fait 25 phrases de prière pendant 10 minutes ou 15 minutes. La prière est un état de vérité. Un dernier point qui me semble souvent rejeté, mais que nous pratiquons ici, c'est le jeûne. Le jeûne n'est pas fait pour être meilleur, pour prétendre être meilleur, pour paraître meilleur. Le jeûne n'est pas fait pour faire des exploits. Parfois, il y a des fardeaux tellement grands sur des autres, ou sur soi-même, ou sur la famille, sur l'Église, qu'il faut supplier le Seigneur et lui montrer notre conviction. Et la conviction, c'est que, Seigneur, je vais te montrer vraiment que je suis attaché à ton intervention, j'attends ton intervention, et je vais te montrer que ma conviction est réelle, je vais m'y priver de 2 repas sur 3 pendant 5 jours, ou de tous les repas. Et je vais te montrer que je t'aime et j'attends ton intervention sur telle chose. Et sachez bien que dans Matthieu 12, Jésus a dit, il y a tel ou tel démon qui ne s'en vont que par le jeûne à prière. Il y a parfois des attaques spirituelles très fortes et qu'il faut le jeûne et la prière. Est-ce que c'est raisonnable de jeûner? Du point de vue de l'Écriture, oui. Du point de vue de l'homme, non. Ce qu'il faut faire, attention, c'est qu'il y a une longue tradition qui se repose sur certains textes de la Bible dans le milieu évangélique où on considère que ceux qui jeûnent, ce sont des orgueilleux. Ils font des œuvres. Ça peut être de l'orgueil. Ça peut être la manifestation d'une volonté orgueilleuse, oui. C'est bien écrit dans l'Épître aux Colossiens. Mais ce n'est pas toujours le cas. Jésus lui-même a jeûné. Lui, le plus humble parmi nous, le plus vrai. Et donc, il faut faire attention aux clichés tout faits. Il faut du discernement. Et on jeûne quand on s'y sent prêt. On ne jeûne pas pour être tourmenté, pour disjoncter, comme je dirais. Voilà des points très importants pour la Bible. Alors, pour vous, pour moi, c'est des points pratiques très importants. Si nous appliquons, si nous mettons en œuvre toutes ces choses, chers amis, je pense qu'on va éviter certaines choses qui sont fréquentes aujourd'hui. C'est d'être dans l'angoisse, bien que chrétien. C'est de ne plus avoir envie de voir les frères, l'Église. C'est la fuite, la démission, voire la lâcheté. Pratiquer les choses que je vous ai dit, ça évite de tomber là-dedans et dans l'amertume. Et ça évite aussi de se retrouver dans des petits ghettos. Le conseil que je donnerais, c'est que, encore un autre conseil pratique, c'est qu'il faut aimer l'Église, même si elle est imparfaite. Toutes les assemblées sont imparfaites. Mais je vais dire, il y a quand même une condition, c'est que la vérité biblique y soit enseignée et que les responsables et les membres s'aiment. Si on prêche la vérité dans une église, la vérité biblique, et qu'il n'y a aucun amour, c'est invivable. Ça va devenir insupportable et ce n'est pas ça que Jésus a demandé. Il faut que la vérité et l'amour règnent ensemble. Père, je te prie que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et qu'il soit un, comme toi et moi nous sommes un. Jean chapitre 17. Donc, pour être un, il faut s'aimer. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Et alors, Jésus dit dans Jean chapitre 15, demeurez dans mon amour. Donc, il dit dans chapitre 17, ta parole est la vérité. En s'adressant à son Père. Et donc, il n'y a jamais une église qui puisse être véritablement l'église de Christ en alliant, en voulant allier la vérité avec du vide. Ou l'amour sans la vérité. Il faut la vérité et l'amour. L'amour est l'expression de la plénitude de la vérité. Elle est l'expression, le fruit de la vérité. Et s'il n'y a pas l'amour, est-ce seulement des mots? Alors un enseignement biblique qui n'est que des mots n'est pas biblique. Nous devons absolument retrouver et refonder des communautés de vérité et d'amour. Car ce n'est pas le Covid qui nous attend, c'est le désastre spirituel dans nos églises, de plus en plus, depuis un an avec ce Covid, et bien avant. Il faut aujourd'hui reprendre le chemin de la conversion et de la repentance. Rappelez-vous que pour Ève, lorsque Satan lui a proposé de goûter, faire l'expérience du bien et du mal, Adam et Ève avaient une expérience du bien, de la présence de Dieu et de la plénitude. Ils ne connaissaient pas la mort, ils connaissaient l'amour, la vérité, ils avaient tout, ils étaient comblés. Satan est venu leur proposer d'avoir un petit plus. C'est de savoir ce qu'était le mal. Qu'est-ce que ça peut être ce mal? Ça ne vous fera pas de mal puisque vous avez tout le bien. Eh bien, ce petit plus qui est arrivé, c'est que il avait présenté des avantages. L'utilité physique d'abord. Quand Ève et puis Adam ont mangé ce fruit, il était bon à manger. L'utilité physique, le plaisir physique du péché. Ne dérapons pas comme dans l'Église catholique en disant que la sexualité est un péché. Hein, c'est pas ça. Le plaisir physique, la mangeaille, les ripailles, la buvaille, etc. Et rappelez-vous que dans Luc, au chapitre 16, je pense, il s'agit qu'à la fin des temps, qu'on soit en garde sur cet excès de manger et de boire, ce danger matérialiste qui nous guette si facilement en Europe. Je vais tout de même vous lire les versets, parce que ça me semble important. Au chapitre 17 de Luc, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome et Gomorre, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Donc, le plaisir de la chair, au sens de l'humain, je vais dire, de la consommation, si vous voulez, du standing, du confort, cette utilité physique peut être redoutablement dangereuse. C'était un avantage que proposait ce péché d'Adam et Ève, à toutes les générations qui allaient suivre. Il y a un autre avantage, c'est la beauté esthétique. C'était agréable à la vue. C'était agréable à la vue. Eh bien, je vais vous dire, dans la culture, dans les mass médias, dans l'architecture, dans l'éducation, on cherche toujours ce qui est agréable à la vue. Ce qui est agréable à la vue réjouit nos cœurs, nos âmes, mais peut nous tromper lourdement si ça devient une idolâtrie. et nous écarter radicalement du Créateur. Il y a, au point que dans Romains, les hommes ont aimé la créature plutôt que le Créateur. Donc, tout ce qui est agréable à la vue peut nous séduire et nous écarter de Dieu. Si nous voyons quelque chose de beau, et qu'il est vraiment beau, propre aussi, saint, agréable à Dieu, rendons grâce à Dieu et tournons-nous vers Dieu. N'idolâtrons pas ce qui a touché nos yeux et nos oreilles, nos sens. Ensuite, une troisième chose que la transgression d'Adam et Ève dans son aspect positif semblait donner à l'homme et aux générations qui ont suivi, c'est le haut potentiel. Il a ouvert l'intelligence, le haut potentiel. Comme si Adam et Ève n'avaient pas eu d'intelligence auprès de Dieu. Comme si auprès de Dieu, on n'avait pas une plénitude d'intelligence, de sagesse. Mais non, il semblait qu'il fallait un haut potentiel. Il faut être un connaisseur. Et je veux vous dire aujourd'hui, on cherche, même en génétique, à avoir des enfants qui ont un haut potentiel. Et on crée des écoles pour les enfants qui ont un haut potentiel. Et on cherche à ce que nos enfants aillent vers l'élite. Tant pis pour les autres. Le haut potentiel, ouvrir l'intelligence, me semble encore une idolâtrie si tout cela n'est pas au service de Dieu. Si cette intelligence n'est pas humble devant la face du Seigneur, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Être un connaisseur dans notre société laïque et laïciste, c'est une véritable consigne. C'est par nos connaissances que nous arriverons à gérer nos problèmes. Mais je ne pense pas. Ça incite tout simplement, quand on est un grand connaisseur, et il y a maintenant des philosophes, plusieurs philosophes français qui apparaissent sur scène et qui remplissent des auditoires où tout le monde écoute, comme aux États-Unis aussi, il y a des connaisseurs de la Bible évangélique qui réunissent des dizaines de milliers de personnes dans des salles, mais en France, c'est différent, ce sont des philosophes, ce sont des connaisseurs. Ils incitent les personnes à développer leur haute intelligence. Une fois ôtée la barrière de l'interdit, c'est-à-dire dans l'éducation chrétienne, on nous enseigne de ne pas être orgueilleux, donc c'est un interdit. C'est un mal d'être orgueilleux. Eh bien, si on ôte cette barrière, cette ligne rouge, une fois ôtée la barrière de cette transgression, on outrepasse tout ce qui est interdit. On fera de la manipulation génétique à outrance et on va rendre l'homme esclave des connaisseurs. On va rendre l'humanité esclave des hauts potentiels qui, à tour de rôle, vont manipuler toujours l'humanité. Nous sommes dans une gangrène de haute intelligence pour le moment, je pense. Et pourtant, on voit l'impuissance, en fait, devant les grands problèmes. Plus les grands problèmes augmentent au niveau climatique, au niveau économique, au niveau social, plus il y a des philosophes qui apparaissent comme des grands connaisseurs pour donner des solutions sages et intelligentes. Et Dieu a dit qu'il rendrait ridicules les sages et les savants. Le temps va bientôt venir. Donc, le péché, ce débordement de la grâce qu'Adam et Ève avaient reçue, pour pouvoir connaître un petit peu ce qu'il y a de l'autre côté, le berceau de la grâce, c'est l'orgueil et la vanité. Et cette transgression a amené, donc, je répète, une fausse conviction, bien sûr, des fausses convictions trompeuses, des mensonges à notre conscience, l'utilité physique, hein, le bon à manger, si vous voulez, la beauté esthétique, agréable à la vue, le haut potentiel, ouvrir l'intelligence. Tout cela, hein, nous pousse à l'extrême aujourd'hui. Tout cela nous laisse croire que l'individu peut dépasser toujours ses limites et tous les interdits. Donc il n'y a plus d'interdiction. On ne peut pas mettre de limites. C'est une culture qui ne veut plus de limites. Et je pense que de cette culture va naître, et sont déjà nés, regardez bien qui dirige le monde, de grands tyrans. De cette culture, comme en Genèse chapitre 6, les grands fameux héros de l'Antiquité sont nés de la débâcle de l'intelligence, la débâcle du sexe, du plaisir et de la beauté esthétique. Les démons virent que les femmes des hommes étaient très belles. Et donc nous retrouvons tous les symptômes, les trois symptômes de la décadence en Genèse 6, et nous les retrouvons aujourd'hui dans notre société. Les grands tyrans viennent toujours pour remettre de l'ordre et donner l'impression qu'on va s'en sortir. On se dérobe à la vue de Dieu, on se cache comme Adam et Ève dans le désert, on se cache. Alors, chers amis, Satan a laissé croire à Adam et Ève, vous ne mourrez jamais. Pour un petit Covid qui n'a fait qu'un effet désastreux sur 0,037% de la population, tout le monde est dans la peur. Donc Satan a menti. La peur est là. Nous avons la peur de mourir. Parce que nous vivons sans Dieu, sans l'aimer, sans lui obéir. Pécher impunément amène toujours la peur et l'angoisse. Et c'est ce qui est dit dans Romains, je vais vous le lire. C'est tout de même flagrant que c'est cela qui se passe aujourd'hui. Romains. Irritation, colère à ceux qui par esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui commet le mal, qui fait le mal, sur tout homme, juif ou grec. Mais gloire et honneur et paix, paix pour quiconque fait le bien. Paix. Honneur et gloire et immortalité, paix. Je pense que quand on est avec le Seigneur, et c'est ça que je voulais dire en donnant mes indications pratiques tout à l'heure, c'est que je vous les répète, je vous souhaite la paix du Seigneur. La paix du Seigneur. La vraie peur ne doit pas habiter les chrétiens. La paix du Seigneur surpasse notre intelligence. La paix du Seigneur est même donnée à qui n'en a pas. Faut-il qu'il soit assez humble pour la demander et reconnaître qu'il s'est trompé. La paix. Jésus a dit ça dans Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. « Je vais lire quelques versets de l'Épître aux Colossiens qui me semblent admirables pour terminer cet enseignement. Colossiens chapitre 3. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, de l'amour, l'agapé, venu de Dieu, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, regardez bien, que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Vous comprenez pourquoi j'ai donné tous ces enseignements pratiques tout à l'heure? C'est pour en venir à la parole et pour vous montrer que le chemin de la paix est toujours offert gratuitement par Dieu à chacun de nous. Mais le monde ne vous donnera pas la paix. Tout ce qui se dit et se fait dans ce monde, on ne peut pas haïr le monde, on doit l'aimer. Mais la paix n'est pas dans le monde. La paix est dans le ciel. Elle est en Christ. Et quand on accepte le ciel dans notre cœur, quand on vit en présence de Christ, la paix de Christ est en nous. Je relis ce verset, Colossiens, chapitre 3, verset 15. « Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. » Royauté, royauté, régner. Pas un micro-fifrelin de paix. Quand ça m'arrange, et puis après je refais tout ce que je veux, comme je veux avec toute ma guise. Non, la paix, sous la royauté de Christ, dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, dans mes forces. Soyez reconnaissants que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Vous comprenez pourquoi j'ai commencé par des conseils pratiques. J'aboutis ici. Tout est dit dans la Bible. Tout est dit dans la Bible. Pour notre bonheur, pour notre croissance, pour notre perfectionnement, pour notre ressemblance à Christ et pour la gloire éternelle. Ce que nos dirigeants du monde, nos systèmes économiques, nos idoles de notre monde ne nous offriront jamais. Nous sommes comme des étrangers dans ce monde. Nous sommes en passage, nous sommes des nomades. Ne nous laissons pas séduire. Dans tous les textes de Marc chapitre 13, Luc 21, Matthieu 23, chaque fois la consigne que Jésus dit, ne vous laissez pas séduire. C'est quand même fort. Ne vous laissez pas séduire. Et entre nous, entre chrétiens, entretenons la vigilance. Entretenons la vigilance. Luc 21, verset 36, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Mais l'arme de la chute, l'arme suprême, c'est la séduction. C'est celle qui a touché Adam et Ève. Et c'est celle qui nous touchera toujours si nous ne sommes pas en Christ de manière forte, amoureuse, pleinement consenti. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui, demain, après-demain, cette nuit. Que Dieu accomplisse en vous toute son œuvre merveilleuse d'amour et de vérité. S'il vous plaît, priez pour ce monde, car il va très mal. Mais vous, portez-vous très bien en Christ. Portez-vous très bien. Je vous souhaite du fond du cœur. Nous sommes mercredi, à vendredi. À vendredi. Cherchez la gloire de Dieu. Restez dans la gloire de Dieu. Désirez la gloire de Dieu.